Donc, je suis Valentin Esser, doctorant au laboratoire Chrono-Environnement. Et lors de cette présentation, nous allons bien parler d'hydrosystèmes, mais je ne vais ni parler d'artificialisation, ni de renaturisation. Mon travail porte plutôt sur le fonctionnement trophique des lacs, et plus particulièrement sur les transferts de carbone méthanogène dans ces réseaux trophiques. Donc, les lacs sont au cœur de sociosystèmes complexes, où leur bon fonctionnement assure de nombreux biens et services écosystémiques, qu'ils soient patrimoniaux, culturels ou encore économiques. Néanmoins, ces systèmes lacustres et leur fonctionnement sont sous la menace de perturbations, qu'elles soient globales avec le réchauffement climatique ou locales avec l'intensification des activités anthropiques sur le bassin versant des lacs. Dans ce contexte, la zone Atelier Arc Jurassien a mis en place un observatoire des lacs qui vise à évaluer la réponse de ces systèmes lacustres aux effets combinés de ces perturbations. Donc, dans le cadre de la zone Atelier Arc Jurassien et de cet observatoire des lacs, le laboratoire Chrono-Environnement a organisé la mise en place d'un site de suivi à long terme sur le lac de Remoray en collaboration avec la réserve naturelle du lac de Remoray. Sur ce lac, de nombreuses études ont été réalisées, dont un suivi physico-chimique à long terme qui a été mis en place, ainsi que de nombreuses études sur l'état fonctionnel actuel et passé du lac. Ces études avaient mis en évidence, entre autres, le transfert important de méthane dans le réseau trophique du lac et une dégradation des conditions d'oxygénation en profondeur depuis la fin du XIXe siècle, qui serait liée à l'intensification des pratiques pastorales sur le bassin versant du lac. Donc, comme je le disais précédemment pour le lac de Remoray, depuis la fin du XIXe siècle, de nombreux lacs ont été soumis à une intensification des activités anthropiques sur leur bassin versant, ce qui a entraîné une augmentation des apports de matières organiques et nutriments dans ces systèmes, et donc cela a conduit à une augmentation de la sédimentation organique. L'intensification de ces apports organiques amène alors à une dégradation des conditions d'oxygénation en profondeur. En effet, c'est la consommation de l'oxygène par les organismes aérobies pour la dégradation de cette matière organique en excès qui peut conduire à l'épuisement total du stock d'oxygène au fond des lacs. On a alors l'apparition d'une zone profonde totalement anoxique, c'est-à-dire dépourvu d'oxygène. Et dans ces conditions, la dégradation de la matière organique n'est plus réalisée par des organismes aérobies, mais elle est réalisée par des archées méthanogènes qui ont la capacité de consommer la matière organique en condition anaérobie, mais qui vont émettre du méthane. Donc ce méthane qui est produit par les archées méthanogènes va pouvoir être diffusé jusqu'à l'atmosphère ou bien réinvesti dans la chaîne trophique via des bactéries méthanotrophes qui ont la capacité de pouvoir oxyder le méthane en condition aérobie. Ces mêmes bactéries qui vont pouvoir être consommées ensuite par divers consommateurs, comme les consommateurs pélagiques, c'est-à-dire le zooplancton, ou des consommateurs benthiques. Donc, dans le cadre de ma thèse et dans le cadre de nos recherches, c'est ce transfert de carbone d'origine méthanogène dans le réseau trophique pélagique des lacs qui nous intéresse. On cherche à comprendre quels sont ces mécanismes de transfert et quels sont les facteurs contrôlant ces transferts de méthane dans les réseaux trophiques pélagiques des lacs. Donc, avant de pouvoir étudier sur de nombreux lacs les facteurs contrôlant l'intensité de ces transferts de carbone d'origine méthanogène dans les réseaux trophiques pélagiques, nous avons dû, dans un premier temps, essayer de caractériser la dynamique saisonnière de ces transferts de méthane, donc en étudiant la variabilité saisonnière de l'origine du carbone consommé par les consommateurs pélagiques. Donc, pour cela, nous avons échantillonné pendant plus d'un an du zooplancton, plus particulièrement des daphnies, ainsi que de la matière organique en suspension dans la colonne d'eau du lac de Remoray, afin de mesurer leur signature isotopique du carbone, qui va pouvoir nous renseigner sur l'origine du carbone. Et de manière simultanée, dans le cadre de la zone Atelier Arc Jurassien et de l'observatoire des lacs jurassiens qui a été mis en place, nous avons réalisé le suivi physico-chimique avec des mesures de concentration en oxygène, température et autres paramètres chimiques. Donc, avant de vous présenter les résultats, je vais vous expliquer comment nous utilisons la signature isotopique du carbone des consommateurs pour déterminer l'origine du carbone consommé. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la signature isotopique du carbone est l'expression d'une relation entre deux isotopes stables du carbone, le carbone 13 et le carbone 12. Cette signature est exprimée en pour 1000 et elle est toujours négative. Il faut savoir que la signature isotopique d'un consommateur reflète la signature isotopique de ce qu'il a consommé et que cette signature va dépendre de l'origine du carbone. De cette manière, nous pourrons distinguer du carbone provenant du CO2 atmosphérique dissous, du carbone provenant du CO2 issu de la respiration, du carbone issu de la méthanogenèse. En effet, Le phytoplancton ayant utilisé du carbone atmosphérique dissous va avoir une signature comprise entre moins 15 et moins 25 à peu près, alors que du phytoplancton ayant utilisé du CO2 issu de la respiration va avoir une signature plus négative que le phytoplancton ayant utilisé du CO2 atmosphérique, une signature comprise entre moins 25 et moins 40. Et enfin, le carbone issu de la méthanogenèse, lui, va avoir une signature très négative, très caractéristique, comprise entre moins 50 et moins 80. Donc, de cette manière, en mesurant la signature isotopique du carbone de nos consommateurs, on peut déterminer l'origine du carbone qui a été consommé. Donc, je vais vous présenter les résultats de notre suivi sur le lac de Remoré. La première figure que vous pouvez voir dans ce diapo, c'est le profil de saturation en oxygène, donc en fonction de la profondeur et en fonction de la depth, avec chaque barre verticale pointillée qui représente une campagne d'échantillonnage. Donc, on voit bien sur le lac de Remoré que l'oxygène qu'il y a en profondeur, dès le début de l'été, va être consommé, puis petit à petit épuisé, jusqu'à la fin de la période de stratification estivale, où on va avoir une zone anoxique qui va faire quasiment la moitié de la profondeur du lac. Donc, dans cette zone qui est totalement dépourvue d'oxygène, donc qui résulte de la dégradation de la matière organique par des organismes aérobies, donc qui traduit de importants apports organiques dans le lac, dans cette zone, potentiellement, on va avoir une forte production de méthane. Et en plus de la production, on va avoir un stockage, car ce méthane, le lac est stratifié, et de plus, ce méthane, dans la zone anoxique, ne peut pas être oxydé, puisque pas d'oxygène. Donc, potentiellement, le méthane va pouvoir être stocké dans cette zone. Ensuite, en hiver, la température des eaux de surface va diminuer, elle va se densifier par rapport aux couches d'eau inférieures, ce qui va amorcer le brassage des eaux du lac. Et le brassage des eaux du lac en hiver permet la réoxygénation de toute la colonne d'eau. Mais on voit que dès le printemps, d'après, l'oxygène qui a été remis à disposition en profondeur du lac va à nouveau être petit à petit consommé pour la dégradation de la matière organique par les organismes aérobies. Donc voici une deuxième figure présentant la signature isotopique des daphnies qu'on a échantillonné pendant plus d'un an sur le lac de Remoré, ainsi que la signature isotopique du ceston, c'est-à-dire la matière organique en suspension et le phytoplancton dans la colonne d'eau. Donc on observe qu'en période de stratification estivale, la signature isotopique des daphnies est très proche de la signature isotopique du ceston. Alors qu'en hiver, la signature isotopique des daphnies s'éloigne de la signature isotopique du ceston, et la signature isotopique des daphnies est particulièrement basse, inférieure à moins 40, ce qui est révélateur de l'intégration de carbone d'origine méthanogène. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en été, la principale ressource des daphnies va être le phytoplancton, qui va être abondant. Et c'est pour cette raison que la signature de leur daphnie est très proche de la signature de notre ceston. Et d'après les signatures quand même relativement basses pour du phytoplancton, donc nos signatures de ceston, qui sont comprises entre moins 34 et moins 40, ces signatures relativement basses nous indiquent un appauvrissement en carbone 13 qui serait synonyme d'une part importante de carbone issu de la respiration qui a été utilisé par le phytoplancton pour sa photosynthèse. Donc, ce qui traduit également une forte respiration dans la colonne d'eau en période estivale sur le lac de Remoré et donc potentiellement aussi une forte sédimentation organique. Alors, qu'en période hivernale, les daphnies semblent changer de régime alimentaire, ce qui expliquerait cette différence entre les signatures du ceston relevé et les signatures des daphnies. Et en plus de changement alimentaire, les signatures très très basses des daphnies, inférieures à moins 40, nous indiquent la contribution importante de carbone d'origine méthanogène dans le régime alimentaire des daphnies en hiver. En effet, en fait, ce qui se passe en hiver, voilà notre hypothèse, c'est qu'en période estivale, dans la zone anoxique, le méthane va pouvoir être produit, accumulé, puis stocké dans cette zone anoxique, jusqu'au brassage des eaux du lac, qui permet de remettre à disposition tout ce méthane dans la colonne d'eau, donc en condition oxique. Ce méthane va pouvoir alors être consommé par des bactéries méthanotrophes, qui elles-mêmes vont pouvoir être consommées par nos daphnies, ce qui expliquerait du coup la signature très basse observée pour les daphnies en période hivernale, qui serait due donc à la remise à disposition du méthane dans la colonne d'eau après le brassage des eaux du lac. Donc, cette étude qui a été réalisée sur le lac de Remoré a été étendue à trois autres lacs du Jura et des Vosges, donc le lac de Bonlieu, de Longemer et de Retournemer, Et sur ces trois-là, qu'on a observé exactement les mêmes dynamiques pour les signatures des consommateurs. Sur ces trois-là, qu'on voit de la même manière des transferts de carbone appauvris en C13 en hiver qui traduiraient le transfert de carbone d'origine méthanogène dans des proportions plus ou moins grandes. Et en été, pareil, on observe le transfert de carbone issu du CO2 atmosphérique et respiré dans des proportions variables, également en fonction du lac. Donc ces suivis qu'on a réalisés sur le lac de Remoré et les trois autres lacs nous ont permis de comprendre les dynamiques saisonnières de l'origine du carbone qui est transféré aux consommateurs pélagiques dans le réseau trophique du lac. Donc on a vu des transferts de carbone issus du CO2 en été, dans des proportions variables de carbone issu de la respiration ou issu du CO2 atmosphérique dissous. Et en hiver, on a vu donc des transferts de carbone issus de la méthanogenèse de par la remise à disposition du méthane dans le réseau trophique. Donc, ces résultats qu'on a obtenus nous ont permis de mettre au point un nouveau protocole d'échantillonnage, une nouvelle étude qui vise à caractériser les facteurs qui contrôlent ces mécanismes de production et de transfert du carbone d'origine méthanogène dans les réseaux trophiques lacustres. Donc, cette étude, elle s'articule autour de deux campagnes d'échantillonnage qui va être réalisée sur 10 lacs appartenant à la zone atelier Arc-Jurassien. Donc, on a déjà réalisé une campagne d'échantillonnage en fin de stratification estivale cet été, et on en réalisera une autre cet hiver. Donc, lors de ces campagnes, nous échantillonnerons des consommateurs, qu'ils soient pélagiques comme nos zooplanctons que je vous ai présentés précédemment, et également des consommateurs benthiques, comme des larves d'insectes, des chironomes ou des oligoquets. Donc, sur ces consommateurs, nous ferons la signature isotopique du carbone, qu'on a renseigné sur l'origine du carbone consommé. Mais à côté de ça, nous allons faire un suivi physico-chimique assez pointu sur tous ces lacs avec la pose de capteurs en continu de température et d'oxygène, ces 10 lacs, ainsi que des profils ponctuels lors de nos échantillonnages, des profils ponctuels de concentration en CO2 dissous et des concentrations en méthane dissous, ce qui va nous permettre de confirmer ou d'affirmer les hypothèses qu'on a émises lors de notre première étude. Et également une caractérisation de la qualité et de la quantité de la matière organique benthique. À côté de ça, on va également caractériser l'occupation des sols sur le bassin versant des lacs, de nos 10 lacs de la zone atelier arc-jurassien. Et ça va nous permettre de voir s'il y a une relation entre l'occupation des terres des bassins versants des lacs, la quantité et la qualité de la matière organique qui va sédimenter dans le lac. Et on va voir si ces facteurs ont une influence sur les mécanismes de production et l'intensité de ces transferts de carbone d'origine méthanogène dans les réseaux trophiques lacustres. Donc voilà,